Voilà, je crains toujours que vous soyez épuisé, fatigué, etc. Donc il va falloir essayer de vous réveiller, ou en tout cas de vous tenir réveillé avec deux personnes, Maître Eckhart et Jean Tolaire, qui, en tout cas pour le premier, ne sont probablement pas parmi les spirituels les plus simples et ceux dans lesquels on rentre avec le plus de facilité. Alors je vais essayer d'être assez bref sur Eckhart, en donnant quelques gros points majeurs, et puis d'être peut-être plus long sur Tolaire, en sachant qu'ils sont dans c'est la même tradition, c'est la même école, que Tolaire est quelquefois, je dirais, plus accessible, plus vulgarisateur et plus pratiquement utilisable par nous. Peut-être même que, voilà, j'essaierai d'aller plus vite sur ce que j'ai écrit, et peut-être alors que, puisque, voilà, les textes peuvent être sur Internet, peut-être que je pourrais éventuellement vous donner le texte et vous pourriez le récupérer plus complet ensuite.
C'est juste une question. Je dois distribuer les textes ou bien pour ce soir.
Oui, si tu veux.
Oui,
voilà, voilà. Tous ceux qui sont sur Eckhart, Tolaire et la multicrénale. Alors, Maître Eckhart est sans doute, vous avez probablement rencontré son nom à une occasion ou à une autre, est sans doute un des spirituels chrétiens les plus connus aujourd'hui. Et j'aurais envie de dire, dans beaucoup de milieux, probablement même les plus à la mode. C'est vrai qu'à l'heure où le dialogue entre les religions, par exemple, tient une place importante, la mystique Descartes est probablement celle qui apparaît comme la plus compréhensible, la plus proche, par exemple pour les bouddhistes. Hein, et on verra particulièrement peut-être pour toute la tradition du zen, et même pour l'hindouisme. Donc voyez, un écho bien au-delà du christianisme. Et j'irai de la même manière, une autre postérité, peut-être étonnante pour certains, de Maître Eckhart, ça a été dans la philosophie, sa lecture par les philosophes, depuis Hegel jusqu'à Heidegger. Alors il faut dire aussi que ce mystique est un théologien, que sa pensée est complexe, qu'elle s'est souvent exprimée dans des paradoxes, ce qui a facilité les contresens aussi, je pense, multiples, parce qu'il y a des maîtres, il y a plusieurs maîtres Eckhart, je dirais. Celui de Hegel est assez différent de celui de tel mystique, etc. Il a en plus lui-même été accusé d'hérésie par son église. Alors pourquoi s'intéresser à un personnage aussi riche et étrange? C'est aussi parce qu'il est l'initiateur de toute une ligne spirituelle importante qui va tenir une grande place dans la spiritualité. Hein, la mystique rhénane, c'est quelque chose de très important. Tolaire va être son disciple immédiat. Tolaire qui va être lu, qui va être apprécié par Luther. Je vous citerai quelques passages de Luther enthousiaste. Qui va être réédité par le réveil, par le piétisme allemand, etc. Qui va être lu par des gens comme Jean de la Croix. Et vous verrez chez Luther bien des traits que Jean de la Croix... chez Tolaire. Bien des traits qu'on va retrouver chez d'autres spirituels, y compris chez Jean de la Croix, on va déjà les trouver là. Alors, d'abord Maître Eckhart. D'abord quelques mots sur sa vie. Il naît vers 1260. En Allemagne, je passe sur bien des choses. De sa vie, on ne sait rien jusqu'à ce qu'il arrive chez les Dominicains. On suppose qu'il étudie à Cologne. On le retrouve quand il sera étudiant à Paris. Il a alors près de 30 ans, plus de 30 ans. Il va être prieur à Erfurt pendant une grande période, de 1294 à 1298. Et c'est de là qu'il faut dater ses entretiens spirituels. Je reviendrai là-dessus. Si vous avez à commencer, si vous avez envie de lire Maître Eckhart, que vous cherchez par où commencer, les entretiens spirituels, c'est ce qu'il y a de plus digeste. C'est là où sa doctrine, je dirais, est probablement le plus simplement exposée. Il y a déjà à peu près tout, mais c'est dans un langage relativement plus simple. En même temps, il obtient la maîtrise en théologie de l'université de Paris, et donc frère Eckhart, le dominicain devient maître Eckhart. Et il a alors une chaire qui est réservée aux dominicains étrangers. Donc vous voyez, professeur à Paris, quelque temps après Saint Thomas d'Aquin, il est du même ordre, hein, dominicain, dire, c'est pas n'importe qui au niveau théologique qui se retrouve professeur à la Sorbonne de l'époque. Il revient en Allemagne en 1303 où il est élu provincial de Saxonie. Ça veut dire 47 couvents de frères qui vont jusqu'en Hollande. Ça veut dire on se balade à une époque où il n'y a pas le TGV, il n'y a pas la voiture, etc. Donc, je dis, voilà, une vie active. Hein. C'est pas le contemplatif dans sa cellule qui ne fait que ça. C'est aussi quelqu'un qui est sur les routes, qui marche, qui se déplace, etc. Il séjourne à Erfurt, où il va rester jusqu'en 1311. Il va être vicaire général de la province de Bohême. Donc il fonde des couvents, il prêche également très souvent en langue populaire. Et vous verrez que, si vous vous intéressez à Eckhart, il y a deux œuvres chez Maître Eckhart. Il y a l'œuvre en latin et l'œuvre en allemand. L'œuvre en latin, c'est l'œuvre théologique. Et pour être honnête, c'est celle qui intéresse le moins, d'une certaine manière, aujourd'hui. Ça intéresse vraiment des spécialistes de théologie médiévale, mais ce n'est pas quelque chose de fondamental. Et toute l'œuvre, alors, je dirais qui a une postérité, qui est lue, relue, etc., c'est l'œuvre en allemand. Et l'œuvre en allemand, donc, c'est pour une très grande part de la prédication. La prédication qui n'est pas destinée aux frères, nécessairement, mais qui est une prédication, on pourrait dire, populaire. Donc, grande notoriété, il va être élu provincial par les dominicains de Teutonie, c'est une autre grande province allemande, mais son ordre l'envoie une seconde fois à Paris pour y enseigner. C'est un honneur exceptionnel hein, pour un dominicain d'être nommé deux fois dans la même chaire à Paris. Avant lui, seul Thomas d'Aquin avait bénéficié de ce genre de privilège. Donc c'est pour montrer l'importance qu'il a à l'époque, la notoriété dont il jouit dans l'Église catholique, etc. Alors, c'est l'époque où la foi, comment dire, l'orthodoxie, si j'ose dire, chrétienne n'est pas toujours sereine. C'est l'époque où on commence à avoir des bûchers qui se créent. Donc c'est une période où penser bien est quand même indispensable si on veut vivre longtemps. C'est l'époque, par exemple, où le procès des Templiers a déjà eu lieu. Hein, il a été entamé par Philippe le Bel en 1307. Et celui de la béguine Marguerite Porrette est achevé. Je reviendrai sur les béguines, mais ce sont des communautés de sœurs, hein, de femmes, qui vivent donc ensemble et qui vivent toute une spiritualité particulière dont il est assez proche. Elle a été brûlée en place de Grève le 1er juin 1310. Ce qui est intéressant, c'est que Eckhart ne peut pas ignorer ça, parce que à cette époque-là, il séjourne au couvent Saint-Jacques, et que c'est au couvent de la rue Saint-Jacques, à Paris, que réside aussi le grand inquisiteur qui a condamné la béguine en question. Or, une bonne partie des doctrines pour lesquelles la béguine a été condamnée n'est pas si éloignée de la pensée de Maître Eckhart. Donc oui, ça crée une ambiance tout de suite où vous vous sentez à l'aise là, quand vous mangez avec le grand inquisiteur. Donc il va se rendre ensuite à Strasbourg, en Teutonie, donc dans la province de Teutonie, pour y occuper les fonctions de vicaire général, spécialement chargé de la direction des moniales. Donc, il s'occupe de l'enseignement, de la prédication auprès, justement, de ces femmes. Et au fond, elles sont un peu comme un tiers-ordre, à bien des égards, hein, pour les dominicains. Ce sont des femmes qui ne sont pas des religieuses au sens canonique strict du terme, mais qui suivent un chemin spirituel en communauté. Et lorsqu'il arrive à Strasbourg, la ville compte 85 béguinins. Vous voyez, c'est comme, je dirais, une sorte de, j'allais dire de réveil, c'est pas exactement le mot, mais c'est comme s'il y avait tout un ensemble de communautés de personnes. Alors il y a les bégards qui sont les hommes, hein, les béguines, qui sont en recherche spirituelle, qui sont dans toute une... Alors il y a tout un bouillonnement spirituel. La montée de cette spiritualité est considérée par beaucoup de gens comme dangereuse, hein, par les autorités de l'Église. Parce que vous savez, il me semble que ce n'est pas très différent aujourd'hui. Quand il y a des groupes avec une spiritualité particulièrement vive, chaleureuse, forte, on craint les dérapages. Et l'institution regarde toujours ça avec l'ombre d'une suspicion. Elle n'a pas toujours tort, l'institution en question. Hein, parce que une partie de ce courant tombe dans l'hérésie. Et vous avez par exemple une communauté qui s'appelle les frères et sœurs du libre-esprit, où effectivement cet enthousiasme vire, oui, à l'hérésie, tombe à côté, en dehors, je dirais, d'un christianisme orthodoxe. Alors, le succès de Maître Eckhart est très lié au développement de ces groupes. Donc Maître Eckhart est à la fois quelqu'un qui est réputé dans le monde théologique, comme un théologien très académique, etc., et en même temps, comme aumônier, si j'ose dire, en tout cas comme dans ces communautés spirituelles, comme un grand prédicateur qui a une énorme influence. Et c'est à ce moment-là, en 1324, il va commencer à enseigner à Cologne, et c'est à ce moment-là que les difficultés, pour lui, vont commencer. Certaines phrases d'un de ses ouvrages, le livre de la Consolation, sont contestées. Et il va répondre par un texte qui lui-même va être remis en cause. En 1326, on lance contre lui un procès en Inquisition. C'est la première fois qu'un procès en Inquisition est mené contre un maître en théologie. Non seulement contre un maître en théologie, mais comme quelqu'un qui est un peu le théologien de son ordre, les dominicains. Alors qu'il y a pas mal de dominicains qui sont eux-mêmes inquisiteurs. C'est une situation inattendue. Peu de temps avant, on a brûlé ou noyé dans le Rhin un certain nombre de béguines et un certain nombre de bégages. Il fait appel au pape. En 1327, Eckhart quitte Cologne pour se rendre en Avignon devant le pape Jean XXII et il va mourir en 1328 avant de connaître la décision du pape. En 1329, une bulle va condamner 17 articles dans ses œuvres et met en garde contre les 11 autres. Le point d'application de cette décision, c'est le diocèse de Cologne. Et donc, ce qui est visé, le but au fond, c'est l'arrêt de la prédication devant les gens simples. Il y a cette perspective quand même. Et vous verrez que Toller, qui lui ne sera pas inquiété, continue ce genre de prédication. C'est le risque que fait courir à l'orthodoxie de l'institution la piété populaire. Alors, quelques mots sur la doctrine de Maître Eckhart. On peut dire qu'il se situe de manière très claire dans la tradition mystique du néoplatonisme, je vais traduire en français courant, transmise par le pseudo-Denis. Ça ne va peut-être pas vous éclairer follement, ces deux affirmations. Alors, je vous dis quand même deux, trois petites choses. Le néoplatonisme, c'est probablement la dernière des grandes philosophies grecques. Le néoplatonisme, le personnage principal, le penseur principal de ce courant, c'est Plotin. Et c'est toute une spiritualité qui est donc issue de la philosophie de Platon, toute une spiritualité, je dirais, de type mystique, la recherche de l'un, et au fond, le détachement de toute chose pour entrer en communion avec l'un. Il n'y a pas de Dieu dans l'histoire au sens chrétien du terme, là, on n'est pas dans le christianisme, on est dans la pensée grecque. Il n'empêche que le néoplatonisme a joué, dans la théologie chrétienne, un rôle fondamental, pour des tas de raisons. La première raison, c'est que au fond, beaucoup de grands chrétiens et de grands théologiens vont trouver dans cette pensée néoplatonicienne, au fond, une manière philosophique de penser leur foi chrétienne. Ça va être vrai d'Ambroise de Milan, grand personnage, et ça va être surtout vrai, je dis surtout à cause de l'influence, de saint Augustin. Ça va être énorme chez saint Augustin, et saint Augustin va trouver dans le néoplatonisme la pensée philosophique qui va le sortir de ses angoisses, de ses difficultés passées, et finalement, sa pensée va rester très néoplatonicienne. Mais le néoplatonisme va surtout jouer un rôle très important dans toute la mystique chrétienne. Et alors, vers, je pense, le 4e siècle, après Jésus-Christ, évidemment, il y a un moine qui a écrit des traités et qu'il a signé de Denis l'Aréopagite. Vous savez, ce personnage qui, dans le Nouveau Testament, écoute la prédication de Paul à Athènes. Alors, ça faisait sérieux, je dirais, de signer comme ça. Évidemment, il arrive quatre siècles plus tard. Quelques textes très importants qui vont mettre l'accent, d'une part, on va y revenir, sur une approche apophatique de Dieu, je vais traduire aussi, hein, c'est-à-dire une connaissance de Dieu qui est une connaissance par la négation. Dieu est absolument insaisissable, inimaginable, indescriptible, innommable au meilleur sens du terme, hein, on ne peut pas le nommer. Et donc finalement, la théologie va se développer par négation. On va dire ce que Dieu n'est pas, mais pas ce que Dieu est. Et c'est toute une spiritualité du dépouillement absolu. Cette spiritualité va jouer un rôle clé dans le christianisme, très important, et probablement que Maître Eckhart est le spirituel, le mystique chrétien, qui va aller le plus loin dans ce sens-là. En même temps, donc l'essentiel, hein, c'est une mystique du dépouillement radical pour atteindre l'unité, la communion avec Dieu. En même temps, Eckhart est très clairement inséré dans la tradition dominicaine, donc avec des grands théologiens, comme Albert le Grand ou saint Thomas d'Aquin, donc dans une approche, une spiritualité qui a une très forte tonalité intellectuelle. Hein, c'est le grand conflit entre les deux écoles, il y avait les franciscains et les dominicains. Les franciscains qui avaient des très grands théologiens et des grands spirituels, mais avec une spiritualité à dominante très affective aussi, et les dominicains avec une dominante beaucoup plus intellectuelle. Vous allez voir, je dis ça pour vous rassurer tout de suite, la partie la plus difficile, c'est la première. La deuxième est beaucoup plus savoureuse, on pourrait dire, à certains égards. Alors, parler de Dieu. Je vous disais qu'un des éléments essentiels de cette tradition, c'est l'approche apophatique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire de positif sur Dieu, qui est toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. On peut simplement dire ce qu'il n'est pas. Alors, reconnaissons que pour un protestant, l'approche apophatique n'est pas naturelle. Hein? Notre approche, c'est plutôt une théologie de la parole. Hein? On se fonde sur la révélation. Alors, il y a des extrêmes, il y a des gens qui sont complètement allergiques à la théologie apophatique, hein? Théologie négative, et donc qui ne pensent que par une théologie positive. Il y en a d'autres, c'est très à la mode aujourd'hui de dire « on ne peut rien dire », etc. Ce que je crois, moi, au passage, c'est que malgré tout ce qu'elle peut avoir d'inhabituel, malgré tout ce qu'elle peut avoir peut-être d'excessif si on la prend de manière trop radicale, cette approche doit toujours être gardée au fond de notre pensée ou au fond de notre mémoire pour compenser tout ce que nos théologies ou notre théologie peut avoir de simplificateur. Il faut toujours se rappeler que quand on dit que Dieu est ceci ou cela, si on parle vraiment de Dieu et pas du fantasme qu'on a en tête, de l'image qu'on s'en fait, ce qu'on dit c'est toujours un balbutiement. Donc je crois que c'est toujours important, vous savez, c'est Calvin qui disait que même dans la révélation, Dieu babille avec nous comme une maman babille avec son bébé, mais il parle un langage qui nous est compréhensible. Mais qui est Dieu en lui-même, dans l'absolu, au risque de vous décevoir, forcément un peu différent de ce que vous imaginez. Et de ce que j'imagine moi-même. Donc, voilà, cette dimension négative, elle me paraît quand même importante. Même quand Dieu se révèle, il se révèle d'une manière qui est compréhensible pour nous. Et pour qu'elle soit compréhensible pour nous, j'ai bien peur qu'elle est assez différente de ce que Dieu est dans la réalité. Dieu n'est jamais enfermé dans les définitions que nous pouvons en donner, qui seront toujours des images, des symboles, pour employer un terme très classique de la théologie, des analogies. C'est analogiquement vrai. Mais... Alors Eckhart va aller très loin, et il va distinguer ainsi entre Dieu et la déité. La déité, c'est Dieu tel qu'en lui-même. C'est l'essence de Dieu, l'essence divine absolue, isolée en elle-même, au-dessus de tout nom, de tout rapport, et dont on ne peut rien affirmer, si ce n'est qu'elle est unité. Et cette déité, donc Dieu dans l'absolu, on pourrait dire, hein, tel qu'il est en lui-même, on ne peut en parler qu'en termes de théologie négative, apophatique. Donc on ne peut rien en dire, hein, si ce n'est dire ce qu'il n'est pas. De telle sorte que même les termes de bonté tels qu'ils sont dans le langage humain ne conviennent pas, ne peuvent pas dire quelque chose de vrai. Alors que Dieu sait la déité en tant qu'elle est en rapport avec nous. C'est au fond, la déité c'est Dieu dans l'absolu tel qu'il est dans lui-même. Le mot Dieu, il l'emploie pour parler de cette déité quand elle se révèle, on pourrait dire. Quand elle entre en relation avec nous. C'est alors qu'on va pouvoir parler de Trinité. C'est alors qu'on va pouvoir parler du rapport avec la création. C'est alors qu'on va parler de la révélation. Au fond, selon l'expression paradoxale des cartes, mais vous imaginez, si vous lisez cartes avec un œil inquisiteur, et entre nous, certains protestants peuvent avoir un œil inquisiteur aussi aiguisé que certains dominicains du Moyen-Âge. Simplement, c'est moins dangereux de nos jours. Mais si on regarde Maître Eckhart avec cet œil inquisiteur, c'est vrai que quelquefois, ça commence déjà un peu à sentir le roussi. Selon l'expression paradoxale d'Eckhart, Dieu n'est Dieu que lorsqu'il y a des créatures. Puisque Dieu, c'est la déité dont on ne peut rien dire en tant qu'elle se révèle. Si les créatures n'étaient pas, Dieu ne serait pas non plus. C'est une manière de parler de Dieu au-delà de Dieu. Il y a un théologien très moderne et très célèbre, Paul Tillich, qui a employé aussi ce genre de formule, de Dieu au-delà des images, au-delà des représentations que nous pouvons nous en faire. Et donc la vie chrétienne, c'est le chemin vers l'union avec Dieu, et plus encore au-delà de l'union à Dieu, avec la déité, avec Dieu tel qu'en lui-même. Alors, je vais juste développer deux points, puis je m'arrêterai pour mettre Eckhart. Et on passera à des choses beaucoup plus pratiques, plus spirituelles avec toi. Premier point, c'est la naissance de Dieu en l'âme. C'est un élément clé de la spiritualité de Maître Eckhart. La naissance du Fils ou la naissance du Verbe en l'âme. Hein, une prédication très célèbre, qui est une prédication de Noël, dit, au fond, de même que la parole a été faite chair en Jésus-Christ à la crèche, mais au fond, sous-entendu, ce qui n'est pas d'une importance capitale, ce qui est d'une importance capitale, c'est que Dieu naisse en vous. C'est que Dieu naisse dans notre âme. L'essentiel du chemin est alors cette ouverture à Dieu, cet accueil de Dieu en nous, qui suppose la pauvreté d'esprit, le délaissement, le détachement, le vide. Il s'agit d'une expérience qui est accessible à tous. C'est pas du tout, dans la prédication de Maître Eckhart, hein, c'est pas du tout quelque chose qui n'est accessible qu'à des religieux qui ont suivi un long chemin d'ascèse, etc. Pas du tout. Cette expérience, tout le monde peut y avoir accès, et il le dit d'un instant à l'autre. Il dit dans certaines prédications, avant même que j'ai fini cette prédication, vous pouvez avoir vécu cette expérience. Et une expérience qui met clair et laïque, hommes et femmes, strictement sur le même plan. En d'autres termes, on pourrait parler, je traduis en évangélique moyen, d'un accent très fort mis sur la dimension de la nouvelle naissance. Hein? C'est un peu la même chose. Hein? C'est au fond cette expérience spirituelle et bouleversante de la venue de Dieu en nous. Et Eckhart, alors, au fond, la démarche d'Eckhart, c'est de dire, autant tu t'ouvres, autant Dieu rentre. Autant tu laisses la place, autant Dieu vient. Parce que Dieu ne veut que ça. Dieu ne demande que ça. Il demande simplement que tu ouvres la porte. Donc tout dépend de toi. Eckhart aime à dire que l'homme humble ou l'homme détaché, celui qui s'est ouvert en quelque sorte, hein, à la présence de Dieu, commande à Dieu. Vous imaginez ça aussi, hein? Pas forcément vrai. Alors là aussi, ça peut paraître comme un paradoxe scandaleux. En fait, ce qu'il veut dire... ce qu'il dit repose sur une certaine conception de la nature de Dieu et de sa relation au créé. Pour Eckhart, et qui n'a rien, enfin qui n'est pas si hérétique que ça en a l'air. Pour Eckhart, Dieu souhaite naturellement se répandre. Dieu souhaite se donner. Dieu souhaite entrer en relation. Dieu souhaite se communiquer à l'homme. Et il le fait si rien n'y fait obstacle. Dieu ne demande qu'à venir en nous, le seul problème c'est notre porte à nous que nous fermons. Mais si elle est fermée, c'est de l'intérieur. L'âme, donc, ne contraint pas Dieu à lui obéir. Simplement, elle laisse Dieu être lui-même. Et lorsque Dieu pénètre en l'âme, alors l'âme est effectivement divinisée et elle devient une avec Dieu. Alors cette divinisation, je ne sais pas si on a déjà parlé la dernière fois, je crois que oui, hein, quand on a parlé de l'orthodoxie et de la prière de Jésus, cette divinisation, hein, c'est pas quelque chose d'original, c'est quelque chose de très classique dans la perspective chrétienne de l'époque, mais bon, des pères de l'Église, hein, aussi bien catholique qu'orientale. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a cette formule très classique, Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Voilà, il reprend ça simplement. Mais pour que le Verbe vienne, alors il faut le silence qui libère. Il écrit ceci, c'est dans son sermon numéro 1. Si Jésus doit parler dans l'âme, il faut qu'elle soit seule et qu'elle se taise elle-même, si elle doit entendre parler Jésus. Ah, et alors, il entre et commence à parler. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit ce qu'il est. Qu'est-il donc? Il est le Verbe du Père. Donc, pour que Dieu vienne, il faut que l'homme se taise, il faut le vide, il faut le silence. On comprend un peu, hein, que les gens qui s'intéressent au zen, ou qui pratiquent le zen, finalement, trouvent Eckhart un excellent théologien. Deuxième point, mais j'en ai déjà pas dit un mot, c'est la notion de détachement ou de délaissement. C'est sans doute le thème le plus connu de la mystique rénale. Il s'agit du détachement de toute chose créée, de tout ce qui pourrait devenir idole, y compris les concepts et les images de Dieu. Juste une parenthèse là, peut-être. Un jour, ça me paraît important parce que c'est quelque chose qui m'avait... Au niveau de ce détachement des idoles, je pense que les protestants sont spécialistes en lutte contre les idoles, on pourrait dire. Hein. Une bonne partie de la réforme relève de ça. Hein. La lutte contre les images, lutte contre... Je me rappelle un jour, je donnais un cours dans un milieu catholique, il y avait une femme qui était à côté de moi là, et voilà, on parlait de ça, et on parlait des protestants de ça, et elle a eu un grand sourire, c'était une professeure de philosophie, elle a eu un grand sourire gentil, touché, enfin, elle avait l'air touchée de ma naïveté, et elle m'a fait remarquer que, vous savez, les idoles les plus importantes, c'est encore celles qu'on a dans la tête. C'est aussi les idoles qui sont les concepts théologiques. C'est vrai que non seulement elle avait raison, mais que c'était douloureusement bien visé. Voilà, alors, je dirais, dans cette démarche de Maître Eckhart, voilà, c'est toutes les idoles, il faut abandonner au fond. Il faut se vider en quelque sorte, délaisser, etc., toutes ce qui nous attache au créé et tout ce qui peut devenir idole. Rien n'est plus difficile que ce détachement, et en même temps, dit Eckhart, rien n'est plus facile pour l'âme éclairée par la grâce. C'est très difficile et c'est très facile. C'est difficile dans le sens que, ben voilà, c'est un peu comme quand il faut trouver une porte. Elle est quelquefois difficile à trouver. Mais en même temps, c'est quelque chose de tout bête. C'est pas une longue assaise difficile. C'est juste un déclic, en quelque sorte, à trouver. Vous savez, c'est comme quand on fait du vélo ou quand on fait d'autres choses comme ça. Souvent, c'est tout bête et tout simple. Le seul problème, c'est de trouver le truc que ça marche. C'est, je crois, exactement de la même démarche dans la pensée de Maître Eckhart. Et le délaissement, donc, il s'enracine dans vous savez, la phrase de Pierre dans Matthieu 10, hein, « Et nous avons laissé toutes choses pour t'y suivre. » Mais il s'enracine aussi dans le « laisse » qui ouvre la théologie mystique, justement, de Denis l'Aréopagite dont je vous parlais tout à l'heure. Ce délaissement signifie le vide que l'on atteint en sortant de soi-même pour que Dieu entre. C'est pas très loin, vous savez, on y reviendra, mais c'est pas très loin du renoncement à soi-même, qui est pour un protestant quelque chose de tout classique. Hein. Et quand on lit l'Évangile, hein, celui qui renonce à lui-même, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, etc. Alors il dit ceci, il faut que Dieu se donne à moi aussi en propre qu'il est lui-même son... Je vous le lis une fois, et après je reviens un peu sur le texte. N'ayez pas peur. Il faut que Dieu se donne à moi aussi en propre qu'il est lui-même son propre, ou bien il ne m'échoit rien et je ne trouve de goût à rien. Alors je reviens sur cette phrase. Il faut que Dieu se donne à moi, aussi, il se donne aussi vraiment, aussi authentiquement qu'il est lui-même ce qu'il est. C'est-à-dire que Dieu se communique pas une grâce, pas quelque chose, une bénédiction, etc. Non, non, c'est Dieu lui-même qui se donne complètement. Pour le recevoir aussi totalement, l'homme doit s'être totalement abandonné lui-même et être sorti de lui-même. Alors, il reçoit de Dieu, à égalité, tout ce que Dieu a, et il le reçoit en propre, tout comme Dieu l'a en propre, et comme l'ont en propre Notre-Dame et tous ceux qui sont au ciel. Et pour cette naissance de Dieu, cette naissance du Père, alors ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans le quatrième sermon, et la dernière partie, mais vous avez ça sur les papiers qui ont dû vous être distribués, mais vous ne vous sentez pas obligé de la garder maintenant. Et pour cette naissance du Père, il faut se tenir à l'écart de toute pensée, parole et œuvre, de toute image de notre entendement, et se rendre vide et dégagé de toute représentation, et persévérer dans un état d'épreuve où l'on souffre Dieu, en sorte que l'on se tient soi-même oisif, et qu'on laisse Dieu agir. Vous voyez, c'est une démarche qui est très proche de celle de la méditation zen. On essaie de faire le vide, pas du tout pour les mêmes buts, le contexte est radicalement différent. D'un côté, il y a la venue de Dieu en nous, de l'autre, il y a la recherche de l'illumination. C'est deux attitudes, deux démarches profondément différentes dans le contexte spirituel, n'empêche que la discipline spirituelle recherchée est quand même très proche, et dans les deux cas, c'est l'ouverture à l'absolu. Là, c'est Dieu qui vient. Alors, je m'arrête là-dessus pour Eckhart. Juste quelques mots sur la bibliographie. Vous trouvez de Maître Eckhart des tas de possibilités de traduction. Celle qui est probable... Alors, vous avez un livre d'introduction qui est excellent. C'est de Alain de Libera, qui est un des grands spécialistes d'Eckhart. Eckhart, Suzo, Tolère ou la divinisation de l'homme. C'est publié chez Bayard. Alors, c'est une collection. J'ai pas amené le bouquin, mais pour Ignace de Loyola, j'ai un bouquin de la même collection. C'est une excellente collection. Vous en avez un sur les stoïciens ou un autre sur Platon. Excellente collection. Vous avez une introduction très bien faite, suivie de textes choisis. Donc ça, c'est, je crois, une introduction accessible, intelligente, profonde, etc. Les œuvres, vous avez plusieurs séries. Vous avez une qui est très facile d'accès, c'est œuvres de Maître Eckhart, serment et traité. Vous savez, dans la collection Tel Gallimard, c'est une collection très facile d'accès, très facile à trouver, pas cher, etc. C'est très bien, le seul défaut c'est que c'est sur des textes un peu anciens, donc je dirais, voilà, ça n'a pas la valeur scientifique la plus pointue. L'entrée en matière la plus simple, c'est celle de Garnier Flammarion, hein, Eckhart, traité des sermons, où vous avez l'essentiel de l'œuvre allemande, les prédications et les traités, et c'est la traduction et l'introduction d'Alain de Libera. Petit volume, voilà, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Après, si vous voulez devenir un grand spécialiste de Maître Eckhart, vous avez plein d'autres choses, mais là, il y a largement de quoi remplir plusieurs années de méditation. Comme livre sur Eckhart, vous avez, alors, Cyprian Smith, qui est un bénédictin anglais, qui a écrit Un chemin de paradoxe, la vie spirituelle selon Maître Eckhart au cerf. Ça, c'est une étude profonde, mi-spirituelle, mi-théologique ou philosophique, et intéressante et accessible. Vous avez Gwendoline Jarzik et Pierre-Jean Labarrière, qui sont deux philosophes, qui ont écrit des traductions de Maître Eckhart, et qui ont fait Maître Eckhart ou l'empreinte du désert. Très intéressant si vous avez l'esprit philosophique. C'est plus philosophique que spirituel. Et puis, ce que je ne vous ai pas mis, je crois, à moins que je l'ai rajouté sur la liste, c'est un autre petit bouquin d'une dominicaine admirable, alsacienne, mais c'est pas pour ça nécessairement qu'elle est admirable, qui est une initiation à Maître Eckhart. Et qui est alors, j'ai peu pratiqué ce livre, par contre, elle a fait une initiation à Tolère, qui est un bijou absolu, je vous en parlerai, que je vous recommande chaleureusement. Alors, voilà, ayant lu l'un des deux, je fais confiance a priori pour le deuxième, et elle, ça sera plutôt le côté alors spirituel. Donc je dirais d'une certaine manière, celui qui nous intéresse le plus. Suzanne Eck, E-C-K, que c'est que. Alors, Jean Tolet, il naît en 1300, donc un peu après, hein, ou vers 1300, vous savez, à l'époque, c'est quand même pas... dans une famille de la bourgeoisie strasbourgeoise. Il entre vers 15 ans dans l'ordre des dominicains. Il est très probable qu'il va étudier à Cologne avec Maître Eckhart. En tout cas, il va être imprégné de l'œuvre de Maître Eckhart, dont il est avec Suso, S-U-S-O, le principal continuateur. Son ministère va être entièrement consacré à la direction spirituelle et à la prédication, et va se dérouler quasi intégralement à Strasbourg. Juste un intermède balois, mais pour des raisons de politique médiévale. Et il va mourir à Strasbourg en 1361. Comme au temps des Cartes, les mouvements laïcs se développent. Certains peuvent être hérétiques, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'autres non. Et certains sont proches de l'Église. Et le mouvement le plus connu, on le connaît sous le nom des Amis de Dieu. Tolère est très proche de ces derniers. Et donc, ces prédications visent des hommes et des femmes qui sont dans le monde, très largement. Et Tolère va, j'ai envie de dire, traduire en langage beaucoup plus normal pour un chrétien, et plus facile d'accès, moins aride d'une certaine manière, la pensée de Maître Eckhart, et en des termes plus orthodoxes, ce qui fait que jamais Tolère ne sera inquiété, la pensée de Tolère n'a jamais été condamnée de quelque manière que ce soit. Alors, pour vous dire juste pour vous donner envie, si vous avez de temps en temps des bouffées de protestantisme qui peuvent vous empêcher de lire Tolère, pour vous donner envie, j'ai envie de vous lire quelques phrases de Luther sur Tolère. C'est Spener qui... vous savez, Spener, c'est encore un Alsacien, qui est le fondateur du piétisme. Et Spener a écrit un petit livre qui a déclenché le réveil piétiste, hein, qui s'appelait « Pia Desideria ». Et dans ce petit livre, il cite Luther et il dit ceci. Luther parle. Si tu as envie de lire de la vieille et pure théologie en langue allemande, alors tu peux te procurer les prédications de Jean Tolère, le frère prêcheur, donc le dominicain. Car, ni en langue latine, ni en langue allemande, je n'ai trouvé la théologie sous une forme plus pure et plus salutaire, et qui fut à ce point conforme à l'Évangile. Plutôt sympathique comme référence. Car, c'est là un livre, car c'est là un livre dans lequel tu trouveras la connaissance de la pure doctrine du salut, comparée à celle-ci, toute connaissance actuelle est en fer ou en terre, qu'elle soit rédigée en grec, en latin ou en hébreu. Oui, il apprécie nettement Tolère. Alors, vous allez voir avec Tolère, on rentre, et puis vous pourrez y revenir parce que je vous ai donné pas mal de textes là, on rentre, je dirais, dans un enseignement spirituel qui est accessible. Le petit livre de Suzanne Eck, je dois reconnaître que beaucoup de choses que je vais vous dire viennent d'elle. Je vulgarise ce que cette admirable dominicaine a trouvé. Et beaucoup de choses du livre de Suzanne Eck, en fait, c'est un petit traité de vie spirituelle d'une étonnante modernité. Et comme souvent, vous savez, ce qui est médiéval, dans certains cas, apparaît comme plus moderne que bien des choses du 19e siècle, hein, ou du 18e. Alors, la naissance de Dieu dans l'âme dont parlait Eckhart, on va la retrouver. Même exemple, même accent. Je vous lis ceci. Si nous voulons maintenant sortir de nous, nous élever en dehors et au-dessus de nous-mêmes, nous devons renoncer à tout vouloir et agir propre. Il ne doit rester en nous qu'une simple et pure recherche de Dieu, avec la seule volonté d'être à lui, de lui faire place, de la façon la plus intime, pour qu'il puisse naître en nous sans que nous y mettions obstacle. Si tu sors complètement de toi-même, Dieu entrera tout entier, autant tu sors, autant il entre, ni plus ni moins. Autant que tu renonces à toi-même, autant tu suivras Jésus-Christ et autant Dieu viendra. Alors Tolère va parler très fréquemment du fond de l'homme. Ce fond, c'est quelque chose qu'on va trouver dans toutes les spiritualités chrétiennes. C'est la fine pointe de l'âme. Il y a 36 manières de dire la même chose. Et je crois que c'est une manière de parler du cœur. C'est-à-dire du centre profond de notre personne qui est le lieu de la présence de Dieu par l'Esprit. C'est le lieu où Dieu habite. Mais, avec nos bagages, nous en bloquons l'accès souvent. La recherche de ce fond, ça va être donc un désencombrement patient et progressif. Hein? Ceux parmi nous qui ont lu et qui aiment étudier le psaume, hein, pourraient trouver des formules quasiment identiques. Hein? Il y a un puits profond, au fond il y a Dieu, ben voilà, il y a des gravats, ben il faut dégager. Quelques siècles plus tôt, au fond, Toléade faisait des choses à peu près pareilles. Qui aura trouvé ce fond aura trouvé son centre. Et cette présence à Dieu lui permettra de maintenir cette communion avec lui, quels que soient les aspects de l'existence, aussi bien dans la prière que dans le travail, dans les difficultés, que dans les temps idéaux. Et cette réalité spirituelle, dit Maître Eckhart, elle n'est aucunement réservée aux contemplatifs. C'est pour les hommes, c'est pour les chrétiens, c'est pour les hommes et les femmes, j'entends. La moitié des hommes sont des femmes, hein, dans ce que je dis. C'est pour les êtres humains, quels qu'ils soient. C'est accessible à chacun. Il dit ceci, « Ne renonce pas si facilement au meilleur et au plus pur des biens, comme à une chose qui ne te serait pas accessible. Car si tu y mets de l'application, tu pourras atteindre Dieu et le pur et noble bien en quelque situation, en quelque état que tu sois. » Alors le moyen pour chacun d'atteindre ce fond, c'est la pratique du recueillement, c'est le silence intérieur, c'est le refus de rester à la surface de nous-mêmes. Il s'agit là d'une chose qui s'obtient par la douceur. Autant quelquefois avec Maître Eckhart, on a des affirmations péremptoires qui tombent du ciel, des choses paradoxales. Autant avec Toller, on a un pédagogue doux qui essaie de nous aider à rentrer dans la démarche. Il dit ceci, « Si tu veux entendre en toi la parole éternelle, mystérieuse et confidentielle qui t'est dite en un chuchotement secret, au plus intime de ton âme, il faut alors qu'en toi et autour de toi, tout orage soit apaisé. Que tu sois une douce petite brebis, tranquille et soumise, que tu perdes ton impétuosité et que tu écoutes avec une tranquille douceur cette aimable voix. » Voilà, calme-toi, apaise-toi, fais silence en toi. Et l'attachement à Dieu, bien sûr, va de pair avec le renoncement. Et il est en même temps très réaliste. Il dit, chercher Dieu, c'est notre problème, ça à tous, je crois, chercher Dieu en cherchant autre chose serait simplement une illusion. Tu peux, c'est même ce que nous n'arrêtons pas de faire, hein, de vouloir le beurre et l'argent du beurre, de vouloir Dieu et le monde, et maman, etc. Et il précisera, mais on entend là des échos que Jean de la Croix développera, il suffit d'un petit fil à la patte d'un oiseau pour l'empêcher de s'envoler. Et lorsque c'est le cas, ben il faut chercher le fil, il faut chercher ce qui nous retient. Alors il est important de toujours nous rappeler que nous sommes des pécheurs. C'est pas Luther qui a inventé la chose. Hein. Et que seul le pardon et la grâce peuvent nous aider. Alors il écrit ceci, tous ces textes sont tirés des prédications et le petit chiffre que vous avez en numéro que vous avez entre parenthèses, c'est le numéro de la prédication. C'est ainsi qu'un saint frère, par lequel, en conséquence de sa vie divine, Dieu avait fait beaucoup de prodiges et de grandes et merveilleuses choses, me disait du fond de son âme, « Sache que je suis le plus grand et le plus méchant des pécheurs qui vivent dans le monde entier. » Voilà comment l'homme doit se considérer dans le fond de son cœur. Car si Dieu avait fait au plus méchant des pécheurs autant de bien, et aussi souvent qu'il t'en a fait à toi-même, ce grand pécheur serait peut-être devenu un grand saint. Ceux qui se tiennent dans ce fond véritable et sûr sont incapables de condamner aucune des habitudes ou des œuvres d'un autre homme. S'ils se trouvaient en présence d'un acte tout à fait mauvais, ils considéreraient aussitôt leur propre infirmité, et dans cette considération, ils s'abstiendraient de tout jugement sur autrui. Hein, simul justus et peccator, disait quelqu'un d'autre. Alors, pour progresser, au fond, on pourrait dire la clé, c'est livre-toi. Contrairement à Maître Eckhart qui mettait très fortement l'accent sur le caractère immédiat de l'action de Dieu, Tolère souligne la nécessité de la durée et de la purification progressive. Vous savez, c'est une histoire permanente, ça. Chez les protestants, même chez les évangéliques, vous avez, avec Wesley par exemple, hein, des débats sur l'entière immédiate sanctification ou au contraire le cheminement. L'ascèse, pour lui, n'est pas d'abord un ensemble de privations et d'actes d'héroïsme extrême. C'est du fond que doit partir l'ascèse, hein, ce centre de la personne. C'est dans le silence, la prière, l'humble écoute de notre cœur que nous allons voir les obstacles. Car Dieu nous les montrera peu à peu au fur et à mesure de nos forces. Hein, au fur et à mesure de notre progression, l'éclairage de Dieu va nous montrer ce que nous sommes capables de recevoir et ce qui nous est utile à un moment donné. Il ne s'agit pas, dit-il, de tuer le corps, mais il s'agit de rejeter le péché dès qu'on l'a. Ce n'est pas le masochisme qui fait la sainteté, mais si ton œil est une occasion de chute, ça c'est pas Tolère qui dit ça, mais c'est la vérité. Sinon plus tard, et dès que nous l'apercevons, dit-il, parce que plus tard, nous risquons de ne plus avoir la force de le rejeter parce que nous aurons pris notre habitude et nous nous serons installés là-dedans. Et c'est donc ensuite le quotidien qui va être le lieu du progrès. Alors, il a des formules savoureuses. Il dit ceci, c'est pourquoi, quand de l'intérieur ou du dehors, quelque souffrance tombe inopinément sur toi, dis donc à Dieu, soyez le bienvenu mon cher, unique et fidèle ami. Je n'aurais jamais cru, jamais je ne me serais attendu à vous trouver ici. Incline-toi bien humblement devant cette épreuve, car sache-le, Dieu te cherche en tout. Il veut avoir en toi un homme abandonné, eh bien livre-toi et deviens cet abandonné. Donc au fond, le moyen de l'exercice, c'est le quotidien. C'est ce qui vous arrive, en bien, en mal. Et c'est voir Dieu dans ce qui arrive. Alors, c'est dans ce qui arrive de bien, c'est ce qui peut nous arriver de moins agréable. Et ce que je trouve très agréable, c'est le sens de l'humour de Tolère dans ses prédications. Il y a un côté très populaire, mais au meilleur sens du terme, je crois. Ce livre-toi, donc, c'est l'attitude de l'abandon qui est faite d'une confiance fondamentale en celui qui nous tient dans sa main. Tiens, s'il y a cet abandon, c'est pas du tout par masochisme, mais c'est parce qu'on fait confiance. Au fond, c'est un peu l'idée, tout ce qui arrivera sera bien parce que ça sera de la main de Dieu. Hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment, etc. C'est un peu la même chose. Donc l'ascèse de Tolère n'est pas autre chose qu'un perpétuel consentement à la volonté de Dieu. Nous nous comportons en fils comme le fils. Et alors ensuite, je voudrais vous lire un certain nombre de choses qui sont des étapes, tout un cheminement dans le chemin de prière. Et vous allez voir que ce qu'il dit va nous poser des bases qu'on va retrouver chez beaucoup d'autres spirituels. Peut-être alors nettement plus développés. La première étape de la prière, et je dirais pour des évangéliques, c'est celle qui nous sera le plus naturelle, je pense, c'est celle de la libre conversation avec Dieu. Hein? Et elle passe par la confession de nos fautes et par l'expression de nos demandes dans la confiance que Dieu attend notre prière et veut y répondre. Il dit ceci, le premier pas est la considération et une vraie et profonde connaissance de tes défauts. C'est par là que commencent tous les amis de Dieu. Tu dois te plaindre gentiment à Dieu de tes défauts. Vous voyez, même là, gentiment. C'est-à-dire, ne te prends pas trop au sérieux quand même. Parce qu'il peut y avoir une manière pathologique de se frapper la poitrine. Ne te prends pas quand même pour le plus grand des pécheurs. Il y en a d'autres. Même en ça, tu n'es pas le meilleur. Donc voilà, il y a un côté, je trouve, très, très humble dans cet humour. Quel qu'il soit. Et ensuite, tu lui feras connaître et tu lui indiqueras toutes les sortes de grâces, de vertus ou autres biens que tu désires, comme tu le ferais à ton unique ami, ton très cher ami, au plus aimé de tous. Présente-lui toutes ses demandes, plains-toi de tous tes maux et défauts et confie-toi à lui en sécurité, et c'est lui-même qui agira, et il sera 100 000 fois plus disposé à agir que toi-même à recevoir. Donc, voyez, premier point, c'est l'entretien amical avec Dieu. hein, comme un ami parle à son ami. Mais on ne reste pas là, quand même. Ensuite, il arrivera que Dieu lui-même nous attire, qu'on se sente attiré, dans une prière plus profonde. Prière plus profonde qui va consister essentiellement à tourner son fond vers Dieu. C'est-à-dire ce cœur, hein, c'est l'orientation du cœur, hein, là où ton cœur est entré, c'est un peu ça. Mais tourner son fond vers Dieu. Et alors pour cela, dit-il, il est d'un grand secours que l'homme extérieur soit en repos, sans mouvement, en silence, et que rien non plus ne trouble non plus le corps extérieurement. Mes chers enfants, en retour de ce repos, Dieu vous donnera le royaume des cieux, et il se donnera lui-même à vous. Au fond, après ce temps d'échange amical avec Dieu, après il y a un temps de recueillement, un silence intérieur, un silence orienté, hein, mais un silence intérieur. Et ce silence, il est l'orientation du cœur vers Dieu. On rentre dans une dimension là, nettement plus contemplative. Il y a cette formule très belle, tourner ce qui n'a pas de nom en nous vers ce qui n'a pas de nom en Dieu. Là, c'est une rencontre mystérieuse entre le plus profond de nous-mêmes et puis Dieu. Et c'est donc entrer dans une prière silencieuse où sont abandonnés notre mémoire, nos désirs temporels, nos raisonnements, nos savoirs sur Dieu, nos élans du cœur, avec tous les sentiments qui peuvent agiter le cœur. Une sorte de dépouillement. Alors, on n'est plus dans l'entretien avec Dieu, on est dans une sorte d'abandon complet pour être présent à Dieu. Il dit ceci, si l'esprit se plonge pleinement et se fond avec tout ce qu'il y a de plus intime, dans le plus intime de Dieu, il sera créé, recréé et renouvelé. Et l'esprit est d'autant plus inondé et surinformé par l'esprit de Dieu qu'il a suivi plus régulièrement et plus purement ce chemin et qu'il a eu Dieu plus exclusivement en intention. Dieu se répand alors en lui comme le soleil de la nature répand sa lumière dans l'air. C'est la même idée qu'Eckhart. On s'expose à Dieu comme on expose un malade au soleil. On sait que Dieu veut. La question ne se pose pas, on ne se demande pas si Dieu a l'intention de se répandre ou de venir en nous. Ça, c'est l'évidence même. L'évidence même, c'est aussi que c'est nous qui ne voulons pas. Donc, c'est faire tomber toutes les barrières intérieures que nous pouvons avoir en nous pour laisser Dieu pénétrer. Alors, devant les vous avez sûrement essayé de faire ça. Si vous essayez de rentrer dans le grand silence, c'est alors que le grand cinéma commence. Les radios commencent à s'ouvrir, les images. Alors, devant les images qui peuvent venir, les distractions qui ne manqueront pas de survenir, la somnolence, après un bon repas, si vous dites je vais faire une heure de méditation juste après le repas de midi, pas de panique. Solaire conseille la douceur, la patience et la confiance en l'aide de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai mis dans les textes, mais il y a un passage, je vous le dis quand même, il y a un passage très mignon aussi dans son texte, où il dit voilà, si tu t'endors, mais écoute, non, fais pas tout un plat, essaie de ne pas t'endormir la prochaine fois, mais rappelle-toi que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant la semaine. Mais voilà, il est en même temps, je trouve, d'une profondeur extrême et d'une bonhomie tout à fait déculpabilisante. Et je trouve que dans ce domaine, ce n'est pas du tout négligeable. Cette forme de prière, donc, ça c'est important aussi, doit être dégagée de tout désir d'obtenir quelque chose. Si vous vous dites, voilà, je vais m'engager sur ce chemin pour avoir des révélations, des visions, etc., là vous mettez le doigt dans l'œil parce que le but de la manœuvre est faux. Il est important aussi de ne pas se laisser trop influencer, même pas se laisser influencer par les intuitions, les illuminations, les manifestations qui peuvent survenir. Méfiez-vous quand même. Quand on commence à faire silence, on devient tout de suite un grand mystique et on a des révélations extraordinaires. On se calme, dirait-il. Elles sont souvent des voies de garage. Et c'est ce que rappelle Toller. Il dit ceci, « N'interroge pas, ne cherche pas plus loin, mais tiens-toi bien bas. Enfonce-toi dans ton non-savoir, dans ton non-vouloir savoir. Dépouillé de tout, tiens-toi à ton Dieu, caché et inconnu, et considère que tu n'es pas homme à connaître de quelque façon le Dieu grand, inconnu et caché. Reste dans la quiétude et le repos, et non pas dans l'illumination et l'émotion. Alors après, il dit quelque chose de tout à fait passionnant, qui va nous ouvrir aussi à des choses dont on parlera demain. C'est des temps dans la vie spirituelle. Il ne s'agit pas de chercher les joies sensibles, il ne s'agit pas de chercher les bénédictions, de chercher des choses, mais il arrive fréquemment que le débutant bénéficie de moments de joie intense. Si vous vous engagez sur ce chemin, ça c'est le bon côté, vous allez voir, au début c'est génial. Ça c'est le bon côté, après on parlera de la suite. Ce que Tolère appelle la jubilation. Alors il écrit ceci. Il est alors, celui qui s'engage sur ce chemin, vraiment enivré, et si plein de Dieu que dans la plénitude de sa félicité, il s'oublie complètement lui-même. Il lui semble alors qu'il pourrait faire des miracles, qu'il passerait bien avec joie à travers le feu, l'eau, des milliers de glaives. Il ne craint plus ni vie, ni mort, ni plaisir, ni douleur. Cela vient de ce qu'il est enivré. On appelle cela jubilé. Dans cet état, tantôt on crie, tantôt on chante, tantôt on rit. Très charismatique. Non mais je crois que c'est l'expérience d'un peu, enfin beaucoup, hein. On pourrait dire, même en termes très classiques, hein, au début de la conversion, voilà, tout se passe à merveille. Il y a un petit tapis de fleurs là, temporaire malheureusement, mais qui existe. Et cette jubilation, même déraisonnable en apparence, hein, dit-il, est une étape utile parce que le débutant est ainsi amené à sortir de lui-même. Cette expérience, elle vient du Saint-Esprit, et il ne s'agit pas du tout de la mépriser, car elle donne des forces pour avancer. Hein, elle construit finalement au début la personne. Mais il ne faudrait pas non plus s'y arrêter. Elle n'est en effet qu'un commencement. L'Esprit touche notre sensibilité, une partie superficielle de nous-mêmes. Enfin, petite parenthèse, je crois que pour nous c'est très important. Parce que combien de fois, dans nos milieux, on voit des gens qui sont dans cette situation pathétique de désirer revenir aux jouissances spirituelles authentiques qu'ils ont connues à un moment donné. Et ça devient pathétique en tout cas, mais peut-être même un peu pathologique, parce qu'on va recréer cette jubilation, au moment où il est plus temps peut-être de jubiler. Au-delà de cette période initiale, il dit « Dieu, rassurez-vous, peut encore de temps à autre vous accorder des douceurs qui, elles aussi, sont là pour nous encourager. Au fond, il faut nous comporter à leur égard comme à l'égard de tout le créé, en user pour le service de Dieu et non égoïstement pour notre seul profit, parce qu'en nous y arrêtant, en les cherchant pour elles-mêmes, nous risquerions de nous y enliser. » Et ça, ça va être une constante de toute spiritualité vraie. Chercher Dieu et non ses dons. Chercher le donateur et non pas le don. Et toute spiritualité qui cherche la bénédiction, qui cherche le don, vous pouvez être sûr qu'elle est déjà engagée sur une voie de garage. Alors, le problème, c'est qu'après cette heureuse période initiale, Dieu va nous mener sur un autre chemin. Celui de la nuit, comme dirait Jean de la Croix, plus tard. Et c'est ce moment-là, il va surgir à l'improviste, surprenant le fidèle, persuadé, comme vous l'avez peut-être été, en tout cas moi je m'y retrouve, persuadé qu'il va continuer sa route dans la lumière. Le temps jubilatoire du début, bon, on se dit, ça y est, on a gagné. Voilà, c'est acquis et ça va rester comme ça. Et à un moment donné, vous rentrez dans une porte vitrée, ou un mur vous tombe sur la tête, toujours une image qui vous parle, mais c'est un peu comme ça. Alors, il écrit ceci. Quand Dieu a entraîné l'homme bien loin de toute chose, et qu'il n'est plus un enfant, quand il l'a fortifié par le rafraîchissement de la douceur, il donne alors en vérité un pain de seigle bien dur à celui qui est maintenant devenu homme et parvenu à l'âge de la maturité. À un homme de cet âge, une nourriture solide et forte est bonne et utile. Il n'a plus besoin de lait et de pain blanc. Alors, se présente à lui un chemin bien désert, et qui est tout à fait sombre et solitaire, c'est là qu'il est conduit. Sur ce chemin, Dieu lui reprend tout ce qu'il lui avait donné. L'homme est alors si complètement abandonné à lui-même qu'il ne sait plus rien, absolument rien de Dieu. Il en arrive à une telle angoisse qu'il ne sait pas s'il a jamais été dans le droit chemin, s'il y a un Dieu pour lui ou s'il n'y en a pas, et si lui-même existe ou non. C'est comme s'il se trouvait arrêté entre deux murs et qu'il eût une épée derrière lui et une lance acérée derrière lui. Et c'est une belle image de situation bloquée. Et alors écoutez la suite. Que lui reste-t-il à faire? Il ne peut ni reculer ni avancer. Qu'il s'assaille donc et qu'il dise « Ô Dieu, je vous salue, amère certitude, pleine de toute grâce. » Donc là, il y a quelque chose qu'on va retrouver très développé chez Jean de la Croix avec la nuit. Mais je pense qu'il est quand même capital parce que, je dis les deux raisons, la première, c'est que je crois qu'il y a une dimension quasi universelle à ce genre d'expérience. Et la deuxième, c'est que dans les types de spiritualité auxquels nous sommes habitués, j'ai l'impression souvent, cette dimension est complètement occultée. Hein? On présuppose que si on fait bien ce qu'on a à faire, si on lit bien sa Bible, si on est sage, si on prie, les bénédictions seront sans faille. Voilà. Et je crois que là, il y a une raison, une des raisons pour laquelle nous piétinons avec une telle persévérance. En fait, pendant cette période douloureuse, hein, Dieu travaille. Dieu agit en l'homme. Il dit que c'est comme une invasion de sa grâce, de sa force, de sa lumière, mais sous une forme que nous ne sommes pas encore capables de connaître et encore moins de recevoir. C'est bien pourquoi nous sommes plongés en quelque sorte dans l'ignorance. Car si Dieu veut pouvoir parler vraiment, il faut que nos puissances se taisent. Les puissances dans le langage médiéval, hein, on va les retrouver chez d'autres, hein, c'est nos sens, on pourrait dire. Hein. Il faut que les puissances se taisent. Cette période, donc, elle est chargée d'angoisse, au point que l'homme ne sait plus où il en est. Cher enfant, je veux te dire ce qui t'arrive. C'est ton dépouillement qui est cause de tout cela. Tu ne veux pas mourir de bon cœur. Ici se vérifie la parole de saint Paul. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette annonce ne se fait point par des paroles ni par des pensées, mais en mourant, en te dépouillant par la vertu de sa mort. Et alors, pendant cette période, les conseils, les paroles sont souvent superflus, y compris les paroles des conseillers, y compris les paroles des accompagnateurs spirituels. Il s'agit d'attendre et de persévérer dans la patience. Et alors Tolère précise, demeure seulement en toi-même, ne cours pas au dehors, ne va pas nécessairement à la prochaine convention pour voir le truc qui va te sortir de là, ou de lire le dernier bouquin qui va te donner la méthode spirituelle qui va te faire. Ça c'est une modernisation, mais c'est l'idée. Sois patient jusqu'au bout et ne cherche pas autre chose. Certains hommes, quand ils se trouvent en cette pauvreté intérieure, courent et cherchent toujours quelques nouveaux moyens d'échapper à cette angoisse, et cela leur est bien nuisible. Ou bien, ils vont se plaindre et interroger les docteurs, et cela augmente encore leurs troubles. Demeure en cette épreuve sans aucune anxiété. Après les ténèbres, viendra la clarté du jour, l'éclat du soleil. Prends garde, comme si ta vie en dépendait, de ne t'appliquer à rien d'autre qu'à attendre. En vérité, si tu tiens à cela, la naissance est proche, et c'est en toi qu'elle va se produire. À toi de choisir si tu veux Dieu ou la créature. Alors, est-ce que ça se passe toujours aussi durement? Pas forcément. Dieu nous connaît et Dieu adapte l'épreuve à nos besoins. Au fond, s'il veut nous faire de très grandes grâces et que nous nous montrions peu ouverts, eh bien, nous devrons subir de grandes épreuves. Mais, dirait-il, pour les âmes qui sont humbles et dociles, alors la nuit sera plus clémente. Il dit ceci. Certains hommes sont tellement raboteux et si peu abandonnés que Dieu doit employer avec eux le balai dur et raide de multiples tentations et de la souffrance afin de leur apprendre à s'abandonner. Mais pour les hommes aimables, dont l'âme est unie et abandonnée, le balayage se fait tout seul. Au fond, ce qu'il dit, c'est que les temps les plus durs sont des temps de grâce de Dieu parce que nous résistons plus. Ce passage donc est à la suite du Christ le passage de la croix, le passage de l'abandon radical de nous-mêmes et de tout entre les mains de Dieu. C'est le chemin de la paix essentielle qui est alors un don du Père. Alors avec ce cheminement, donc hein, prière, vous voyez, prière entretien avec libre entretien avec Dieu, prière contemplative, silence, ouverture à Dieu, les temps de bénédiction jubilatoire, les temps de désert qui appellent la patience. Après tout ça, au fond, il y a la lumière. Selon Toller, l'homme est alors tellement divinisé que tout, à un moment donné, tout ce qu'il opère, c'est Dieu qui l'opère en lui. Hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'idée. Hein. Dieu est pleinement présent. Cette situation est difficile à décrire et Toller ajoute, il vaut mieux la sentir que d'en parler. L'homme est alors dans son unité véritable et discerne les mystères de Dieu. Il est débarrassé de lui-même. Il apprend alors ce qu'est l'humilité véritable, pleine d'amour et de joie. Il est stable en Dieu. Mais en même temps, ça c'est quelque chose voilà, que Toller affirme sur la base de son expérience, mais l'expérience de beaucoup d'autres, et qui me paraît assez mystérieusement pertinente. Et en même temps, pas facile à avaler quand même. Il dit ceci, l'homme est stable en Dieu, mais en même temps, il connaît souvent la souffrance. Celle du corps comme, qui a comme du mal à supporter cette expérience si intense, celle également souvent de l'opposition extérieure. Ça ne devient pas nécessaire. La période finale, qui est une période de plénitude, de bénédiction, etc., et d'action, n'est pas pour autant la tranquillité absolue. Et quand on lit la vie de grands spirituels, voilà. Ça ne me paraît pas si absurde que ça. Et Jean de la Croix, on peut dire la même chose. Et alors ces êtres, ceux qui sont donc arrivés en quelque sorte à ce seuil-là, à cette plénitude de Dieu, ces êtres qui ne se font pas remarquer, jouent pourtant un rôle essentiel pour le royaume de Dieu, à cause de leur proximité du Christ, et à cause de leur conformité avec lui. Et il dit ceci, si ces gens n'existaient pas dans la chrétienté, le monde ne subsisterait pas une heure. Car leurs œuvres sont de beaucoup plus importantes et meilleures que tout ce que peut faire le monde entier. C'est Dieu qui fait lui-même toutes les œuvres de tels hommes. Et c'est pourquoi leurs œuvres sont au-dessus de toutes les œuvres humaines, dans la mesure où Dieu lui-même surpasse les créatures. Et il termine par cette jolie formule, sachez-le donc, ce n'est pas si terrible que vous pensez d'entrer en relation avec Dieu. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Le reste, vous le trouverez éventuellement un peu, voilà, dans le texte sur Internet. Alors, au point de vue des œuvres, là je serai très court. Vous avez publié en poche, vous savez, la collection Foi Vivante, Aux Amis de Dieu. C'est la totalité des sermons de Toller. Simplement, c'est le meilleur de chaque sermon. Hein, et voilà, le plus utilisable, on va dire, c'est génial, c'est excellent, c'est lisible, c'est jubilatoire aussi, ça. Voilà. Alors, si vous passionnez pour Toller au point de vouloir faire une étude sérieuse avec des textes, avec un apparat critique, etc., ben vous avez les sermons dans la collection Sagesse chrétienne, au CERF. Voilà, c'est la grande édition de référence, complète, etc., qui coûte nettement plus cher. Je vous inviterai quand même à commencer avec ça si vous avez envie de lire Toller. Et puis alors, comme introduction, Suzanne Eck, dont je vous parlais, Initiation à Jean Toller. C'est passionnant, remarquablement fait, et vous pouvez en tirer alors vraiment, je dirais, un enseignement nourrissant, pratique. Et puis, dans la même... Alors voilà, j'en ai terminé avec Fanny Cicrénal. Dernière, peut-être dernière référence, dans la même ligne. On n'est plus sur le Rhin, mais on est en Angleterre, au XIVe siècle. Hein. Un chef-d'œuvre de la mystique anglaise, c'est le nuage d'inconnaissance. C'est le même esprit. C'est la même dimension contemplative d'ouverture à l'action de Dieu. Et là, Vous le trouvez, je vous ai mis ça dans la liste que je vous ai donnée, sous deux formes. Hein. Vous avez la petite collection de poches Point Sagesse, qui est pas chère, qui est facile à trouver, etc. C'est excellent. C'est une très jolie traduction, un tantinet archaïque. Volontairement archaïsante, je dirais, dans la formulation. Et puis vous avez une nouvelle traduction au cerf, plus moderne, plus scientifique, paradoxalement plus facile à lire aussi. Voilà. Donc ça, c'est aussi un chef-d'œuvre. Et je vous le cite juste au passage parce que c'est quand même le même type de spiritualité. C'est la même démarche. Voilà, il vous reste encore un quart d'heure pour les questions si vous avez. Ou les remarques si Linda veut en rajouter.